Chapitre 17. Ernest n'avait qu'à venir. Et chaque jour, elle se demandait si les représentations qu'elle attendait si impatiemment et avec tant d'angoisse ne seraient pas retardées. En tout cas, elles n'auraient pas lieu toutes les deux le même soir, de sorte qu'elle devrait attendre après la seconde pour savoir par lui comment aurait marché la première. N'était-ce pas exaspérant ? Et elle recommandait à sa mère de lui parler des pièces de Faré et de lui répéter tout ce qu'on en disait, soit autour d'elle, soit dans les journaux. Sans doute, cette insistance pouvait étonner son père, qui lisait toujours ses lettres. Mais le temps des ménagements était passé. À ce qu'il eût maintenant des soupçons, il n'y avait plus de danger. Il l'habituerait à l'idée qu'elle pouvait aimer Ernest, et même, il était bon qu'il admît cette idée, de façon à n'être pas renversé quand Ernest lui adresserait sa demande. Car, de ce côté aussi, il y aurait des difficultés à vaincre, des obstacles à écarter. L'orgueil du nom, l'ambition d'un grand mariage. Mais elle ne s'en inquiétait pas trop, s'imaginant que, quand ils pourraient s'appuyer sur la fortune de Mademoiselle de Puylaurens, que celle-ci leur donnait en dot, cela emporterait tout. N'était-ce pas cette fortune que son père avait toujours poursuivie ? N'était-ce pas pour qu'elle la gagnât qu'il avait envoyé à Cordes ? Elle l'avait gagnée, cela méritait récompense sans doute, et la récompense qu'elle demandait, c'était Ernest. Elle ne voyait pas comment, ni pourquoi, les choses n'iraient pas ainsi. Puisque c'était à l'occasion de son mariage que sa tante lui assurait sa fortune, son père ne pouvait pas, quelles que fussent ses répugnances à accepter un gendre sans naissance, ne pas consentir à ce mariage. La gloire ne tient-elle pas lieu de naissance? Si Madame de Mussidan avait eu la liberté d'écrire ce qu'elle voulait, elle aurait donné à sa fille tous les détails que celle-ci lui demandait. Mais, obligée de montrer ses lettres à son mari, qui les ponctuait, elle ne pouvait parler de Faré qu'avec une certaine réserve. Cependant, elle put fixer les dates des représentations quand elle les connut. Celle de Châtelard, à l'Odéon, devait avoir lieu le samedi 5 septembre et celle de Sylvie au gymnase, le lundi 17. En admettant le mieux, il ne pouvait donc pas arriver à Cordes avant le mercredi matin, c'est-à-dire qu'elle avait 4 jours à attendre si sa mère ne lui écrivait pas longuement le dimanche. Elle mit tout son espoir dans cette lettre. Quelle ne fut pas son émotion, le dimanche matin, en rentrant de la grand-messe, d'apercevoir sur sa serviette l'enveloppe bleue d'une dépêche télégraphique. « Une dépêche ?» dit Mademoiselle de Puylaurens. « Lis vite, mon enfant !» Elle avait déjà déchiré l'enveloppe et elle lisait « Très grand succès hier soir, un triomphe !» Mussidan. Mademoiselle de Puylaurens, qui la regardait avec inquiétude, n'eut pas besoin de l'interroger pour être rassurée. Ce n'était point une mauvaise nouvelle qu'elle venait de recevoir. Le bonheur illuminait son visage, la joie faisait trembler ses mains. « Qu'as-tu ? Mais qu'as-tu donc ? » demanda Mademoiselle de Puylaurens. Elle tendit la dépêche à sa tante. « Eh bien quoi ? » demanda celle-ci, ayant lu. « Un triomphe ? C'est ton père qui triomphe ?» C'est l'ami dont je vous ai parlé quelquefois, M. Faré, qui a eu hier soir une pièce en 5 actes et en vers, jouée à l'Odéon, avec le succès que dit cette dépêche. Ah ! Et s'adressant à son valet de chambre, « Buvin, faites donc servir !» Mais Geneviève, malgré ses efforts, ne put pas manger. La joie l'étouffait. Buvin, voyant cela, s'imagina qu'elle ne mangeait point parce que la côtelette qu'on lui avait servie était trop cuite. Il en plaça une autre délicatement dans une assiette et, avec empressement, il la lui apporta. « Celle-ci est à point » murmura-t-il. Mademoiselle de Puylaurens suivait son idée. « C'est ton père qui t'annonce ce triomphe ? » demanda-t-elle. « Mon père ou maman ? Alors ils sont très liés avec lui ? Vous le voyez souvent ? Nous allions chez sa mère presque tous les dimanches. » Là-dessus, Mademoiselle de Puylaurens se mit à manger d'un air absorbé. Jusqu'à la fin du déjeuner, il ne fut plus question de Faré, mais lorsqu'elles furent seules dans le salon, les questions recommencèrent. « Qu'est-ce donc au juste que ce monsieur Faré, dont le succès te met dans un pareil émoi ? C'est notre meilleur ami. Il y a longtemps que vous le connaissez ? Il y a 4 ans. Comment l'avez-vous connu ? Il était le camarade de nos voisins, nos amis, les Gaiswiller. Je l'ai connu chez eux. Si j'ai eu quelques succès, c'est à lui que je les dois. Non seulement il m'a fait des articles, mais encore il m'en a fait faire dans tous les journaux. Ah, c'est un journaliste ? Il a commencé par être journaliste pour vivre, pour faire vivre sa mère avec laquelle il demeure, et... Elle eut un moment d'hésitation, mais l'heure était venue de parler. « Et qui est muette, dit-elle. Jamais fils n'a été aussi tendre pour sa mère, aussi bon, aussi dévoué, aussi courageux. C'est bien naturel. Chez lui, la tendresse et le dévouement vont au-delà de l'ordinaire, et le courage aussi. Il ne s'est pas contenté d'être journaliste et de vivre tranquillement de ce qu'il gagnait dans les journaux. Depuis 3 ans, il a donné ses nuits au travail et en voici enfin le résultat, ce triomphe de Châtelard à l'Odéon. Ah, c'est Châtelard le titre de cette pièce, un épisode de la vie de Marie Stuart. Demain, on joue de lui, au gymnase, une comédie moderne qui a pour titre Sylvie et il a encore d'autres pièces toutes prêtes. Quel âge a-t-il ? 26 ans. C'est un beau garçon ? Demanda Mademoiselle de Puylaurens d'un ton un peu railleur. Oh oui ! Répondit Geneviève avec enthousiasme. Elle aurait voulu que sa tante l'interrogeât toujours, car ce n'était pas seulement du bonheur pour elle de pouvoir enfin parler de lui, c'était encore un devoir qu'elle accomplissait. Mais comme elle préparait ce qu'elle allait dire pour le bien montrer tel qu'elle voulait qu'on le vît, « Eh bien, c'est assez sur ce monsieur Faré, » dit Mademoiselle de Puylaurens. Et il fallut qu'elle se tût. Après Sylvie, elle reprendrait. Comme sa tante avait ouvert un livre, elle en profita pour se promener dans le jardin. Ce n'était pas au moment où il allait arriver qu'elle devait renoncer à sa ruse. Et puis, elle avait besoin d'être seule et de réfléchir. Un triomphe ! C'était un triomphe ! C'était le mot dont elle s'était toujours servie en pensant à cette représentation. Mais comme il prenait dans la dépêche de sa mère une toute autre importance que celle qu'il avait dans sa bouche. C'était un fait maintenant, une certitude et non plus seulement une espérance. Comment sa tante n'avait-elle pas été touchée de ce triomphe alors qu'elle lui disait que c'était celui d'un ami, de leur meilleur ami ? Il y avait là quelque chose de caractéristique. Sans doute, elle avait compris que ce meilleur ami était plus qu'un ami. De là ses questions, de là aussi son air ironique, quand elle avait demandé s'il était beau garçon. Eh bien, s'il en était ainsi, tant mieux. Elle serait préparée, et quand elle apprendrait que cet ami était un mari, elle ne serait pas surprise. Et de lui, elle saurait déjà qu'il était un bon fils, un homme de courage et de volonté, un cœur tendre et dévoué, un esprit élevé, un grand écrivain, enfin qu'il était doué de toutes les qualités qu'elle lui avait données et qu'il possédait vraiment. Et certainement, cette préparation ne serait pas inutile, car il était évident que Mademoiselle de Puylaurens n'était point sympathique à ce journaliste qui écrivait des drames et des comédies. Elle aimait peu ces gens-là. Au ton de ses questions, on pouvait juger ses sentiments pour ce beau garçon. Mais elle le voyait de loin. Elle ne savait pas ce qu'il était, et son opinion pour beaucoup était faite de préjugés. Quand elle saurait la vérité, quand elle le connaîtrait, quand elle pourrait apprécier ce qu'il y avait en lui de bonté et de tendresse de cœur, d'élévation d'esprit, de noblesse de caractère, ses préjugés s'effaceraient. Si elle avait pu tout dire, elle les aurait déjà assurément ébranlés. Mais par bonheur, elle n'avait plus longtemps à attendre. Encore 3 jours et elle pourrait librement parler. Et si sa tante voulait lui fermer la bouche en lui disant encore « C'est assez sur ce monsieur Faré ?» elle pourrait répondre « Non, ce n'est pas assez, car c'est lui que j'aime, lui qui sera mon mari, ou je n'épouserai jamais personne. » Et si sa tante tenait tant à la marier, il faudrait bien qu'elle l'acceptât. Après tout, elle n'était pas si obstinée qu'on pouvait le croire dans ses idées, sa tante. Quand il le fallait, elle en changeait. Toute sa vie, n'avait-elle pas été l'ennemie du mariage ? Et maintenant, elle voulait la marier. Son entêtement n'était pas celui d'une bête. Intelligente et bonne comme elle l'était, elle se laisserait gagner quand elle verrait que ce mari était fait pour le bonheur de sa nièce. Il était impossible qu'elle ne fût pas touchée. Si elle ne se rendait pas à la tendresse, elle céderait à la nécessité. Il pouvait donc venir, et comme Sylvie allait avoir sûrement la fortune qu'avait eue Châtelard, dans 3 mois, il serait marié.